Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
C'est une affaire criminelle sans mort que je vais vous raconter aujourd'hui. Une tentative d'assassinat qui se joue en juillet 2012 à Douai-la-Fontaine, dans le Maine-et-Loire. Une très vieille dame de 90 ans, Yvette Julien, est assommée à coups de bouteille de vin et son agresseur la laisse pour morte. Mais elle va survivre. Va-t-elle désigner celui qui a voulu la tuer? C'est tout l'enjeu de l'enquête que je vais vous raconter. Vous verrez, c'est une affaire très touchante, une affaire très émouvante que nous allons débriefer tout à l'heure avec l'avocat de l'accusé. Je ne donne pas encore le nom de l'accusé, je donne juste celui de son avocat, maître Alexandre Boutier du barreau de Nancy, qui est là au téléphone. Bonjour maître.
Oui, bonjour monsieur.
J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, la réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le 24 juillet 2012, aux alentours de 8h du matin, Chantal, qui est aide-ménagère, arrive chez Yvette. Yvette Julien, à Douai-la-Fontaine, dans le Maine-et-Loire. Yvette est une vieille dame de 90 ans. Chantal vient tous les jours l'aider à faire son ménage, ses repas, et lui tenir compagnie, aussi. Elle arrive devant sa petite maison. Tiens, c'est bizarre, Madame Julien n'a pas ouvert ses volets. D'habitude, à 8 heures, les volets sont ouverts. Et Madame Julien est prête, elle l'attend. Elle ouvre le portail, elle arrive à la porte, fermée. Et ça aussi, c'est anormal. Madame Julien ouvre toujours la porte avant l'arrivée de son aide-ménageur. Heureusement, Chantal a un jeu de clés dans son sac. Elle ouvre, elle entre. Madame Julien ? Madame Julien ? Elle arrive dans la cuisine. Madame Julien ! Yvette est étendue sur le sol, face contre terre. Et il y a du sang partout autour. Allô? Les pompiers? Bonjour, je suis l'aide-ménagère de Madame Julien, à Douai-la-Fontaine. Elle a fait une chute, je viens de la retrouver dans la cuisine. Il y a du sang partout. Les pompiers arrivent. Elle respire, cette dame-là. Elle est encore vivante. La vieille dame a le visage tuméfié, elle est méconnaissable, mais donc, elle respire encore. Et en se penchant sur elle, pour lui porter les premiers secours, on s'aperçoit très vite que ça n'est pas une chute. D'abord, elle a reçu des coups partout sur le corps, violents, au moins 5 coups. Et surtout, elle a une coupure assez profonde au poignet, comme si on avait voulu lui couper les veines. On ne se fait pas ça en tombant, n'est-ce pas? Pourvu qu'elle tienne le coup. Pourvu qu'elle soit capable de dire qui lui a fait ça. Parce que pour l'instant, elle est très mal en point. D'après le SAMU, il n'est pas certain qu'elle survive. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital d'Angers. Et donc, une enquête commence, conduite par la gendarmerie. D'emblée, comme ça, ça ressemble à un cambriolage qui a mal tourné. La maison a été entièrement fouillée. Le bureau a été renversé. Dans sa chambre, les tables de chevet sont grandes ouvertes. Elle a dû tomber sur des cambrioleurs. À 90 ans, elle n'allait pas leur faire grand mal. Les types devaient être des brutes. À moins que ce ne soit pas un cambriolage. Parce qu'il y a un truc bizarre tout de même. Oui, on a ouvert les armoires, les tiroirs, renversé le bureau, mais sa carte bleue est là, en évidence. Et son chéquier aussi, et quand on déshabille la vieille dame, elle a un peu d'argent liquide sur elle. Quant à ses bijoux, oh, pas grand-chose, mais bon, des bijoux tout de même, ils sont à leur place. On les a sortis, mais on ne les a pas pris. On aurait donc affaire à des voleurs qui ne volent rien. C'est très étrange. Il y a autre chose de bizarre. D'après ce que dit l'aide ménagère, Madame Julien avait autour du cou un collier d'alarme. Vous savez ce collier qui sert aux personnes âgées à appeler les secours en cas de chute? Eh bien là, étrangement, elle ne l'a pas sur elle. Et il n'est nulle part. Où est-il passé ce collier? qui le lui a pris? Est-ce qu'on le lui a enlevé, justement pour qu'elle n'appelle pas au secours? Auquel cas, on a voulu la tuer, et ça serait donc une tentative d'assassinat. Pourvu qu'elle se réveille, pourvu qu'elle puisse donner le nom de celui qui a voulu la tuer. Dans la cuisine, les experts de la gendarmerie découvrent des projections de sang sur les murs, à environ 50 cm du sol, ce qui veut dire qu'on l'a frappée alors qu'elle était déjà à terre. C'est important, parce que ça nous éloigne encore du scénario d'un cambriolage qui tourne mal, et ça confirme l'idée qu'on a voulu l'assassiner. Le ou les types qui l'agressent la frappent, elle tombe, il continue. À part ça, rien, pas de traces d'ADN. Pas d'empreinte digitale. Et ensuite vient la question habituelle. Yvette avait-elle des ennemis? Est-ce qu'une dame de 90 ans a des ennemis? Yvette est veuve depuis 20 ans. Elle n'a pas d'enfants. Elle n'a qu'un neveu, c'est sa seule famille, un certain Maurice Boiteux qui habite à l'autre bout de la France, dans les Vosges, où il est garagiste. D'après ce que dit l'aide ménagère, Yvette le considère comme son fils. Et d'ailleurs, c'est elle qui le prévient. Monsieur Boiteux, c'est Chantal à l'appareil chez votre tante à Douai-la-Fontaine. Voilà, votre tante, elle est à l'hôpital, elle a été agressée chez elle. Faute de piste et en attendant qu'à l'hôpital, Yvette reprenne ses esprits, les gendarmes se lancent dans une enquête de voisinage. Ils font le tour, une par une, des 770 maisons du village.
Bonjour, messieurs, dames. Nous enquêtons sur l'agression dont a été victime Madame Julien. Vous avez remarqué quelque chose? Non? Entendu, n'hésitez pas à nous appeler s'il vous revient quoi que ce soit.
Et assez vite, les gendarmes se polarisent sur un point. Chantal, l'aide ménagère, dit que la porte d'entrée était fermée à clé quand elle est arrivée. Cette porte n'a pas été forcée, il n'y a pas non plus de traces d'effraction sur les fenêtres d'ailleurs. Donc, celui qui a agressé Yvette avait les clés. Certes, elle a pu lui ouvrir parce qu'elle le connaissait, mais comment l'agresseur a-t-il refermé après, en partant? Il fallait qu'il ait les clés. Question donc, qui, en dehors de l'aide ménagère, avait les clés de chez Yvette? Les gendarmes font leur petite enquête et ils découvrent l'existence d'une autre aide ménagère qui a les clés elle aussi. Et le jardinier a un trousseau. Et le neveu Maurice Boiteux aussi, pas depuis longtemps d'ailleurs, d'après ce que dit Chantal. Les gendarmes interrogent tous les détenteurs de ces trousseaux, un par un, y compris donc le neveu Maurice.
C'est terrible ce qui est arrivé. Vous savez, j'ai perdu ma maman très jeune, quand j'étais adolescent. Et Yvette, c'était pour moi comme une mère. Hein. C'est elle qui m'a en partie élevé, pourvu qu'elle s'en sorte. Vous la voyez souvent? Non. Pas plus d'une fois par an, j'habite dans les Vosges, à plus de 600 kilomètres. En général, je viens pour les vacances, je suis d'ailleurs venu il y a quelques semaines, début juillet. Mais je l'appelle tous les jours, hein, tous les jours.
Les gendarmes ont le relevé du téléphone d'Yvette Julien. Et effectivement, son neveu l'appelle tous les après-midi, aux alentours de 15h-16h.
Vous pourriez nous donner votre emploi du temps le soir du 23 juillet et la nuit qui suit, monsieur Boiteux?
Oui, bien sûr. Voyons, le 23 après-midi, j'ai fait du vélo, une trentaine de kilomètres, je pense que je suis rentré vers 9h moins le quart, et après je me suis couché assez tôt parce que le lendemain matin j'avais un match de tennis de 8 à 10 avec un ami.
Quelqu'un peut attester du fait que vous avez fait du vélo dans votre région, là-bas, à Mirecourt, en fin d'après-midi jusqu'en début de soirée?
Ah ben oui, j'ai croisé un de mes employés, Malik, il pourra vous le confirmer.
Et le Malik en question confirme. Les gendarmes se font remonter le relevé téléphonique du neveu et la géolocalisation de son téléphone portable, il n'a pas bougé de la région de Mirecourt dans les Vosges de toute la journée du 23. Et son relevé bancaire ne fait apparaître aucune dépense hors des Vosges ce jour-là. Donc le neveu Maurice Boiteux a un alibi solide. Pourquoi d'ailleurs est-ce que les gendarmes s'intéressent à lui un peu plus qu'aux autres personnes qui gravitent autour d'Yvette et qui avaient les clés, aux aides ménagères, aux jardiniers par exemple? Oh, pour une raison très simple. Je vous ai dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Et je vous ai aussi dit que Maurice est comme son fils. Si elle était décédée après cette agression, c'est lui, Maurice, qui héritait de tout. Maurice était son légataire universel. Et ça explique donc que les gendarmes prennent un peu de temps et déploient beaucoup d'énergie pour vérifier son emploi du temps. Mais bon, après vérification, ça ne peut pas être lui. Il n'a pas bougé de chez lui dans les Vosges. Et donc, il faut trouver une autre piste. Et surtout, espérer qu'Yvette se remette sur pied et qu'elle raconte ce qui s'est passé. Elle sait qui a voulu la tuer. Ça fait 3 semaines qu'Yvette est à l'hôpital. Et le 13 août, les médecins appellent les responsables de l'enquête. Elle est en état de parler.
Mais je vous préviens, hein, elle est assez confuse, hein, il faudra y aller doucement.
Les gendarmes foncent à l'hôpital. Ils arrivent dans la chambre d'Yvette. Et elle est là, couchée dans son lit, pauvre femme, couverte de bleu.
Madame Julien, c'est la gendarmerie. Qu'est-ce que vous dites ? Madame Julien, en quelle année sommes-nous ? Bah, 1922 ? Quel âge avez-vous, Madame Julien ? Bah, j'ai 33 ans. Vous êtes sûre ? Oh non, j'en ai 36.
C'est terrible. Elle a perdu la tête. Les coups qu'elle a reçus, son âge aussi. Elle ne sait plus en quelle année on est. Elle ne se souvient pas du tout de l'agression. Elle est incapable de donner un nom. La guigne, la guigne, la guigne. Et donc, il faut repartir à zéro. Et quand je dis à zéro, c'est vraiment à zéro. Les gendarmes décident de fouiller à nouveau la maison d'Yvette. Et c'est une bonne idée, ma foi, parce qu'ils trouvent un truc qu'ils n'ont pas vu la première fois. Ils tombent sur son livre de comptes. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, si vous notez sur un petit carnet toutes vos dépenses, mais il y a des gens qui le font, et Yvette le faisait. Et c'est bien intéressant, parce qu'on découvre qu'au fil des années, Yvette a prêté pas mal d'argent à son neveu, Maurice.
Eh ben dis donc, regarde là, 2001, elle lui donne 60 000 euros pour payer ses impôts, c'est écrit. Tiens, et là, 2005, 11 000 euros pour acheter une voiture. Tu peux rechercher les relevés bancaires du neveu, s'il te plaît ?
Les gendarmes étalent les relevés bancaires de Maurice Boiteux sur la table.
Eh ben dis donc, il est fauché comme les blés, le neveu, mais il a un sacré train de vie.
Maurice Boiteux dépense entre 8 000 et 13 000 euros par mois, alors qu'il en gagne un peu plus de 3 000. C'est un flambeur qui dépense beaucoup plus qu'il ne gagne. Et comment fait-il ? Eh bien, il vit à crédit. Rien que cette année, en 2012, il a contracté 12 crédits à la consommation. Chez CTLM, chez Sofinco, vous le savez, ils sont pas très regardants, ces gens-là. Ils lui ont prêté cette année, en 2012, plus de 100 000 euros. Des crédits pour rembourser des crédits, en vérité. Maurice Boiteux est aux abois. Les gendarmes découvrent qu'il a mis sa maison en vente. Yvette avait souscrit une assurance vie en sa faveur. À sa mort, il touchait 200 000 euros, plus la valeur de la maison, dans les 150 000. Ça nous fait un sacré mobile, ça. Le neveu revient dans le jeu. À peu près à ce moment-là, les gendarmes ont un retour de la société qui gère le fameux collier d'alarme. Vous vous souvenez, Yvette le portait tout le temps, mais le jour de son agression, elle ne l'avait pas. Il a disparu. D'après la société de sécurité auquel était connecté ce collier, Yvette a déclenché l'alarme courant juillet, quelques jours avant de se faire agresser. L'opératrice qu'il a eue en ligne dans la foulée se souvient très bien de leur conversation.
Elle m'a dit que c'était pour faire un test.
C'est tout ce qu'elle vous a dit ?
Non, elle m'a demandé ce qui se passait si elle déclenchait l'alarme. Et je me souviens bien, elle m'a dit que c'est son neveu qui était à côté d'elle qui posait la question.
Le neveu ? Encore lui. Mais le neveu, vous le savez, il a un alibi en béton armé. Il était chez lui à Mirecourt dans les Vosges. Vous vous souvenez qu'il a dit qu'il a fait du vélo et qu'il a croisé un de ses employés. Et l'employé en question, un certain Malik, a confirmé auprès des gendarmes. Je l'ai vu sur son vélo. Est-ce que ce Malik aurait menti ? Les gendarmes se font remonter son relevé téléphonique. Et là, ils s'aperçoivent que le gars passe l'après-midi du 23 juillet 2012 au téléphone chez lui. Il n'a pas bougé de chez lui. Il n'a pas pu voir Maurice faire du vélo. Oui, il a menti. Il a menti pour couvrir son patron. Et s'il couvre Maurice, c'est que Maurice n'est pas net. Neuf mois après l'agression de Madame Julien, Maurice Boiteux, le neveu, et Malik, son témoin, sont tous les deux placés en garde à vue, séparément, naturellement. Avant même qu'on lui pose la question, Malik passe à table.
Je m'excuse. J'ai menti. J'ai menti parce que le lundi 23, je l'ai pas vu, Maurice. Il m'a dit que sa tante avait été agressée. Et que ce jour-là, il était chez lui, il m'a dit qu'il risquait d'être soupçonné, il m'a demandé de dire que je l'avais vu. Moi, je croyais pas que c'était si grave. J'ai pas osé lui dire non. Je voulais juste lui rendre service.
Faut pas trop lui en vouloir à ce Malik. Maurice a un garage, il est son patron depuis 15 ans. C'est Maurice qui lui a appris le métier. Il pouvait pas le lâcher. Et donc les gendarmes prennent le PV des aveux de Malik et ils vont le coller sous le nez de Maurice Boiteux.
Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, monsieur Boiteux ?
Oui. Oui, je vais vous dire comment ça s'est passé. C'est moi. C'est moi qui lui ai donné des coups. Je l'ai fait tomber par terre, je l'ai assommé. Et après, je retournais à la maison pour faire croire que c'était un cambriolage.
Quand vous quittez la maison, monsieur Boiteux, madame Julien est-elle vivante ou morte ?
Moi, je croyais qu'elle était morte.
Pour quelle raison est-ce que vous avez voulu la tuer ?
J'avais trop besoin d'argent. J'avais plus de solution. J'étais perdu.
Mais comment a-t-il fait ? Lui qui habite à 600 km du Maine-et-Loire, à Mirecourt, dans les Vosges. Devant le gendarme, le neveu raconte tout. On sent qu'il se soulage, il en a gros sur la conscience. Le 23 juillet, aux alentours de 16h, Maurice quitte Miremont. Il prend 1000 précautions pour passer inaperçu. Il laisse son téléphone à la maison. Il désactive le GPS de sa voiture, ça vous ne le saviez peut-être pas, mais votre GPS enregistre tous vos trajets, même si vous ne le mettez pas en marche. Votre GPS et votre téléphone vous espionnent 24 heures sur 24. Mais Maurice savait ça. Il savait aussi que sur l'autoroute, il y a des caméras partout, notamment aux barrières de péage. Et donc pour tromper les caméras, il modifie sa plaque avec un petit bout de sparadrap noir. Et puis dernière chose, pour ne pas se faire trahir par sa carte de crédit, il ne l'a pas utilisée. Pour faire le plein, pour s'acquitter des péages, il n'a utilisé que du liquide. C'est très futé tout ça. On n'est pas passé loin du crime parfait. Et au passage, notez que ça signe la préméditation, tant de précautions en amont du crime. C'est une tentative d'assassinat, pas de doute. Ensuite, Maurice Boiteux parcourt les 600 kilomètres qui le séparent de Douai-la-Fontaine. Il raconte qu'il s'arrête sur une aire d'autoroute juste avant d'arriver chez sa tante. Et là, il se change. Il enfile un jogging. Ça, c'est pour limiter le risque de laisser de l'ADN. Il arrive à Douai-la-Fontaine aux alentours de 23h, 23h30. Il dit qu'il connaît ses habitudes. Elle se couche entre 21h et 21h30. Et donc à cette heure-là, elle dort déjà depuis au moins 2 heures. Il escalade le portail, il fait le tour de la maison, il entre sans faire de bruit, puisqu'il a les clés. Il monte directement à l'étage.
Mon idée, c'était de la faire tomber de son lit. Ça lui était déjà arrivé il y a 4 ans, elle n'avait pas pu se relever.
Mais là, contre-temps, Maurice est sur le point d'entrer dans la chambre de sa tante, la lumière s'allume. Alors il fait marche arrière, Yvette sort de sa chambre, elle descend au rez-de-chaussée et lui, il file se planquer dans la cave. À ce stade, son plan a échoué. Mais il vient de faire 600 kilomètres, il a tout organisé et il a ce besoin pressant d'argent. Et là, dans la cave, il voit des bouteilles de vin. Il en prend une, il remonte au rez-de-chaussée. Il voit Yvette dans la cuisine. Bam ! Il lui colle un coup de bouteille sur la tête. Elle tombe. Bam ! Il lui en colle un autre. Et un autre. Et encore un autre. Elle ne bouge plus. Il pense qu'elle est morte. Il commence par aller se laver les mains. Il a les mains pleines de sang. Et ensuite, il improvise. Il n'est plus dans son scénario initial. Il se dit, je vais faire croire à un cambriolage. Alors il ouvre les armoires, les tiroirs, il renverse le bureau, il étale le contenu de la boîte à bijoux, mais il ne prend rien, l'idiot. Et après avoir nettoyé, il va remettre la bouteille en place, dans la cave. Dernière précaution, il se penche sur Yvette, il lui retire le collier d'alarme qu'elle a autour du cou. Et à 1h du matin, il quitte la maison, il arrive à sa voiture, il se change à nouveau. Et il reprend la direction de Mirecourt, à 600 kilomètres de là. Et en route, dernière précaution, il s'arrête sur une aire de repos et il jette dans une poubelle ses vêtements tachés de sang et le collier d'alarme. Maurice arrive à Mirecourt à l'aube, épuisé. Et à 8h du matin, comme prévu, il va faire son match de tennis au tennis club de Mirecourt avec un ami. L'ami d'ailleurs dira
« Oh ben j'ai trouvé ça bizarre !» Il a perdu son match de tennis. Ça lui arrive jamais.
N'empêche qu'à ce moment-là, il peut penser qu'il a commis le crime absolument parfait. À une condition. C'est qu'Yvette soit morte. Et elle n'est pas morte. Et il l'apprend assez vite dans la matinée par le coup de fil de Chantal, l'aide ménagère. Et c'est là qu'il commet la faute qui va le perdre. Il demande à son employé Malik de mentir. C'est ça qui le fait tomber. Sans Malik, les gendarmes n'auraient jamais trouvé quoi que ce soit pour l'impliquer dans la tentative d'assassinat contre sa tante. Notons que Maurice, par ailleurs, est un type de 65 ans, absolument au-dessus de tout soupçon. Assez bel homme, d'ailleurs. Ses clients du garage l'appellent Bébel. Et c'est vrai qu'il a de faux airs de Jean-Paul Belmondo. Alors que risque Bébel devant la cour d'assises? Eh bien, exactement la même chose que si Yvette était morte. La même peine que pour un assassinat. Il risque perpétuité. Et bien évidemment, il peut s'asseoir sur l'héritage, hein? Entre-temps, Yvette s'est remise. Pas tout à fait d'ailleurs, puisque elle était en fauteuil roulant et qu'elle ne peut plus utiliser sa main droite. Mais il lui reste toute sa tête. Elle a décidé de le déshériter. Elle va léguer ses biens à l'église catholique et aux auxiliaires de vie qui l'accompagnent. Il n'aura rien. À vrai dire, il n'aura pas besoin de grand-chose puisqu'il est parti pour finir sa vie en prison. Le procès de Maurice Boiteux s'ouvre en janvier 2015 devant la cour d'assises du Maine-et-Loire à Angers. Et chose extrêmement rare, D'entrée, il dit
« Un type comme moi doit finir ses jours en tôle. Je mérite perpétuité. Je vous le dis dès maintenant, à l'issue du verdict, je ne ferai pas appel. »
Il est dévoré par le remords. La position n'est pas facile pour son avocat, Maître Boutier. Il doit tenter de le défendre malgré lui. Jouer par exemple sur le fait qu'il est parti de Mirecourt sans armes. Signe que l'assassinat n'était pas totalement prémédité. Sauf que l'avocat général rappelle qu'il a laissé son téléphone chez lui, qu'il a masqué ses plaques, qu'il a payé les péages en liquide. Il n'a rien laissé au hasard. Tout ça est bien le signe d'un acte prémédité. Le procès de Maurice Boiteux ne dure que 3 jours. Yvette ne vient que le dernier jour. Elle a maintenant 93 ans. Elle entre dans la salle en fauteuil roulant, poussée par la directrice de sa maison de retraite où elle vit désormais. La scène est très, très touchante. Elle entre, elle le cherche du regard, ils ne se sont pas vus depuis 3 ans.
Maurice ! Tata, je te demande pardon. Mais un tout petit pardon parce que il n'y a pas de mots. J'accepte ton pardon, Maurice. Tu es ma maman, Tata. Tu as toujours été avec moi depuis ma naissance. Je le sais, Maurice.
Et là, elle tourne la tête vers le président et les jurés.
Hélas, ça ne suffira pas. Je viens de vous dire que j'ai pardonné à Maurice. Je fais confiance à tout le monde ici pour choisir un jugement juste. C'est tout.
À un moment, Maurice tente d'expliquer qu'il a fait ça pour payer les études de ses filles. Et là, l'avocate d'Yvette se fâche.
Mais enfin, monsieur Boiteux, vous n'avez pas le droit de faire supporter ça à vos filles. Ce que vous avez fait, vos filles en sont victimes. Hein? Comme madame Julien. Vous n'avez pas fait preuve de courage, non. Vous avez fait preuve de lâcheté.
Ensuite, l'avocat général signe un réquisitoire sans appel.
Monsieur Boiteux se ment à lui-même. Le problème, c'est lui. Le problème, c'est sa vie sans compter. Le problème, c'est de ne pas savoir dire la vérité. Ne nous égarons pas. Il était juste pressé d'hériter. Le mobile est simplement, uniquement et complètement crapuleux. Je vous demande de le condamner à un minimum de 25 ans de réclusion criminelle.
Maître Boutier, l'avocat de Maurice, plaide en dernier.
On peut tous déraper, n'est-ce pas? C'est dans notre humanité, et lui, il n'est rien d'autre qu'un être normal. Alors certes, on ne peut pas effacer ses erreurs, mais ses remords sont sincères. Il n'est pas menteur. Il n'est pas manipulateur.
Les jurés se retirent, ils délibèrent pendant 3 heures et demie, et ils condamnent Maurice Boiteux à 20 ans de réclusion criminelle. Et comme promis, il ne fera pas appel. Yvette Julien est décédée de mort naturelle 2 ans plus tard, en juin 2017, à l'âge de 95 ans. Et je suis pour débriefer cette histoire avec l'avocat de Maurice Boiteux, maître Alexandre Boutier du barreau de Nancy. Vous êtes là, maître, je voudrais qu'on parle de ce procès parce que j'ai l'impression que ça a été un moment extrêmement fort. Je me trompe ?
Non, vous êtes dans l'exactitude, c'est-à-dire que cette rencontre que vous avez décrite tout à l'heure s'est passée comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que il y avait de l'amour, il y avait encore de l'amour entre ces deux-là au moment du procès. Alors après, madame Julien, avec une personnalité forte, et c'est vrai que quelque part, sa sentence a été elle aussi sans appel. Si elle lui pardonnait à lui, en tout cas, elle l'a dit très clairement que la justice devait passer. Mmh. Et elle ne demandait pas la clémence, hein, très clairement, auprès du juriste, sans non plus demander une peine exemplaire, etc. Donc, mais elle était assez distante par rapport à ça, et on comprenait quand même qu'elle voulait qu'une justice sévère passe quand même. C'était un peu son message.
Sa demande de pardon, c'est votre client, vous êtes tenu par la relation qui vous lie, tous les deux, donc je ne peux jamais être certain que les avocats de la défense disent la vérité sur ce qui s'est vraiment passé, mais quand il lui demande pardon, c'est sincère ?
Écoutez, tout le monde l'a perçu comme tel, hein. En tout cas, moi je pense que depuis le départ, il est dans le remords, bien évidemment, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui, bien sûr, parce qu'on rentre dans le détail après de l'affaire, n'ont pas été narrés, mais il a perdu immédiatement après de nombreux kilos, c'est-à-dire que il va stigmatiser eh bien le remords. Et d'ailleurs, il y a un profilage qui va être fait dans cette affaire. C'est assez remarquable parce que les gendarmes, les services techniques judiciaires et de l'information, eh bien, vont faire une description de ce que peut être l'auteur de ce crime. Et il y a deux hypothèses, soit un proche, et c'est le cas donc de Maurice Boiteux, soit c'est un contrat. Parce que il y a une distanciation dans ce crime, c'est-à-dire qu'il y a une violence minimale qui a été appliquée, c'est-à-dire c'est ce qui marque le plus, c'est qu'il y a une mise en scène de cambriolage, c'est-à-dire très rapidement on comprend bien qu'il n'y a pas eu de vol, et donc que ce remue-ménage n'est qu'un simulacre de cambriolage pour masquer autre chose. Donc en fait, les enquêteurs vont jusqu'à penser qu'il s'agit peut-être d'un mandat criminel, donc
bien une sorte de dédoublement.
Voilà, ou d'un tueur à gage, ou alors, effectivement, quelqu'un de très proche qui connaissait la victime et qui retenait ses coups plus ou moins inconsciemment quand même, c'est-à-dire sur la fin. Et donc, même s'il y a une violence qu'on ne peut pas nier, il était noté que c'était une violence minimale et donc l'auteur avait un lien très proche, ce qui était le cas, puisque, comme il l'a dit, il l'a toujours considéré comme sa mère. Il faut rappeler aussi que dans leur histoire toute singulière, elle a aidé sa propre mère à l'accoucher. Et l'histoire veut également que ce serait elle qui ait choisi son prénom. Donc c'est vrai que lorsque sa mère décède lorsqu'il est adolescent, eh bien c'est naturellement elle qui prend la figure maternelle. Elle était toujours là, de toute façon, très proche, et ils vont avoir cette relation quotidienne que vous avez rappelée, c'est-à-dire au moins...
Qui est incroyable, alors, d'ailleurs.
Qui est incroyable.
C'est-à-dire parce que même sa propre mère, on ne l'appelle pas tous les jours, forcément, à 15h.
Exactement. Donc c'est vrai que c'était tous les jours, et puis il y avait ces visites, on va dire un peu rituelles, dans l'année. Il y avait l'été où c'est un peu plus long, mais il y avait aussi...
Noël.
Assez régulièrement, je crois, à Noël, ou à Pâques, me semble-t-il. Toujours est-il qu'il y avait ce lien et cette affection mais réelle, c'est-à-dire que là-dessus, tous les témoins, c'est-à-dire on ne peut pas mentir sur 65 ans, je veux dire, et puis simuler encore, on pourrait faire des efforts si on était vraiment un peu vice-large, j'ai envie de dire, on fait des efforts sur la dernière année, sur rapprocher pour approcher sa future victime, c'était absolument pas le cas, hein. Bien évidemment, l'amour et le lien très fort qui les unissait était parfaitement réel. Alors après, ce sont les experts psychologues et psychiatres qui le disent très très bien au sujet de Maurice Boiteux, parce que on se dit, et c'est vrai que c'est un crime sur le papier crapuleux, c'est-à-dire c'est financier, mais il faut rentrer quand même dans l'explication un peu plus complexe qu'il a décrite, c'est-à-dire que acculé par les dettes qui étaient réelles, ses dépenses, mais vous l'avez dit, la plupart de ses dépenses, c'est pour rembourser des crédits qui sont très nombreux. Et bon, sans mettre toute la responsabilité, bien évidemment, sur tous ces établissements bancaires ou de crédits qui prêtent quand même très facilement, on voit bien qu'on peut être dans une situation obérée et de ne pas relever.
On va revenir sur les faits, Maître Boutier. Oui. Dans un instant, je veux qu'on reste au procès pour l'instant. Et sur d'ailleurs la posture qui est la vôtre, qui est un peu particulière, puisque donc en début de procès, il réclame la peine maximum, qui est perpétuité, qui est la peine qu'il encourt pour tentative d'assassinat.
Alors, et vous
retrouvez à essayer de réduire cette peine, qui est une position inconfortable, je suppose.
Alors, ce n'était absolument pas préparé. Il ne me l'avait pas indiqué. C'est un peu surpris que j'entends ce qu'il raconte à ce moment-là.
D'accord.
Mais il va le répéter sur les trois jours. C'est-à-dire, à chaque jour, il va quand même le glisser à un moment donné. Donc, je dis à un moment donné, faites attention, parce que le juriste serait capable de vous donner entièrement raison et vous donner une totale satisfaction.
Mais pendant les suspensions, vous discutez avec lui en lui disant...
Ah oui, non, mais là...
on peut négocier une réduction de peine, quand même.
Non, mais je pense très sincèrement qu'il savait, c'est quelque part un suicide social. C'est-à-dire, quand il a réclamé sa perpétuité, il, je pense, en tout cas, c'est mon analyse, hein, personnelle, c'est pas du tout encore quelque chose dont on a discuté, mais il savait que bien ces jours, en tout cas, il y a de fortes chances qu'il finisse sa vie en prison. Il l'a verbalisé comme tel, et je pense qu'au fond de lui, c'est ce qu'il souhaitait. La réquisition était très haute déjà.
25.
La peine en soi, 25. Après 20 ans, le résultat que je considère comme un résultat très sévère, on pouvait effectivement faire appel et devant une autre cour d'assises espérer un résultat moindre. Donc
il n'en a pas voulu.
Il n'en a pas voulu.
Il est resté fidèle à ce qu'il avait dit.
Exactement. Moi, je lui ai écrit et je lui ai conseillé de faire appel. Il ne l'a pas souhaité. Il a donc tenu ce qu'il avait indiqué d'emblée au début du procès.
Yvette, vous savez si la peine de 20 ans lui a paru juste, puis c'est
ce qu'elle avait demandé? Je ne sais pas du tout. Il n'y a pas eu de lien entre avocats par la suite. Et puis, il ne correspondait pas avec sa tante. Il s'était mis effectivement en retrait. Bon, il était quand même dans la culpabilité, dans le remords, et il ne voulait surtout pas interférer. Il n'y a pas eu de lettre de la part de sa tante non plus, mais voilà, il n'y a pas eu de contact et puis de débriefing, entre guillemets, après ce procès.
On voudrait comprendre qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans la vie de Maurice Boiteux pour qu'il dépense en gros trois fois ce qu'il gagnait tous les mois et que donc il se soit lancé dans cette cavalerie de crédit à prendre un crédit pour rembourser le précédent, quoi.
C'est un petit peu, voilà, la cavalerie, vous le dites, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans ces crédits très faciles à obtenir, eh bien, on vous en prête. Il était à la retraite, mais il faut aussi noter qu'il avait repris une activité de chauffeur de bus qui était un petit complément. Donc, c'était pas quelqu'un non plus de oisif et puis, voilà, fainéant. Au contraire, il essayait de trouver des situations à sa situation financière qui était opérée par ailleurs. Il avait mis en vente sa maison, qui était une belle demeure à Mirecourt. La difficulté, c'est que Mirecourt n'étant plus vraiment attractive comme à l'époque ou la belle époque de l'industrie dans les Vosges, la valeur de l'immobilier s'était effondrée et il n'y avait pas de solution visible, en tout cas à court terme. Je pense, parce qu'il avait des amis qui avaient étudié la possibilité de l'aider, je pense que Maurice, lui, était submergé d'inquiétude et il n'a pas vu cette possibilité. Je pense que en prenant un peu plus le temps, peut-être qu'il aurait pu réellement vendre cette maison et éponger la plupart des dettes. Toujours est-il qu'il avait un train de vie initial qui était dispendieux. C'est vrai qu'on a dit que bon, il était flambeur, c'est un bel homme, il sortait, il recevait. Après, il y avait effectivement un train de vie peut-être un peu supérieur dans un premier temps, mais les activités à l'époque étaient florissantes. Il avait des garages qu'il a vendus, mais après, encore une fois, voilà, il y a un train de vie, c'est difficile de le réduire, ou en tout cas, quand on le réduit, c'est un petit peu trop tard. Et surtout, ces crédits qui génèrent plus d'intérêt qu'autre chose. Donc, on en rachète. Et aux yeux de sa famille, de sa femme et surtout de ses filles, c'est vrai qu'il se voyait ne plus leur offrir des conditions matérielles satisfaisantes, suffisantes en tout cas pour ses filles. C'est vrai que ce qu'on lui a reproché un petit peu, de dire bah, vous dites que vous faites ça pour vos filles, mais c'est pas que lui qui le dit, c'est-à-dire c'est l'expert psychologue, il parle d'un geste sacrificiel. Je vous avoue très honnêtement que je n'avais jamais vu ça dans une expertise, un élément aussi favorable à l'accusé, de dire que finalement la tante avait fait son temps, il fallait que laisse la possibilité aux autres d'avancer. Et en tout cas, c'était dans sa construction fantasmagorique qu'il s'était créé pour justifier et de mettre de la distance avec sa victime, qui était peut-être la femme qu'il aimait par-dessus tout. Voilà, il y avait quand même cette dimension assez complexe, psychologique et même au niveau psychiatrique, hein, qui était très intéressante. Bon, les jurés ne sont pas allés jusqu'à ces explications peut-être un peu trop fines.
Alors sur les faits, son intention initiale est donc de la faire tomber du lit et de la laisser là, j'ai envie de dire, assécher, à mourir. Mais il sait que Chantal vient le lendemain matin.
Oui, alors ça
vous n'y croyez pas
questions. Je n'y crois pas. C'est-à-dire, en fait, ça, c'est plus une question qui lui a été posée dans le cadre de garde à vue, dans lequel il était, au cours de laquelle il a été, très fatigué. C'est un soulagement d'avouer, etc., etc. Mais,
il le redit pas au procès.
Alors, il le redit pas comme ça. En fait, la réalité est un peu tout autre. C'est-à-dire, vous l'avez dit, tout est préparé minutieusement. C'est-à-dire qu'il y a des détails que commun des mortels ne connaît pas. Et pour autant, il désactive le GPS. Le téléphone, il est chez lui, pas de carte bleue utilisée, etc., etc. On modifie la plaque d'immatriculation parce que c'est lu à chaque péage. Il s'arrête, il ne sort pas au péage utile. Et il s'arrête avant, il fait un détour. Il modifie ses vêtements pour faire semblant de courir, d'être un jogger du soir et aussi, bon, ben voilà, avoir une autre apparence. Bref, tout est prévu, mais il n'y a pas d'arme du crime. Alors, faire croire après que, en faisant tomber, certes, une vieille dame, mais de son lit, elle va mourir, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire une seule seconde que la seule chute fasse mourir cette vieille dame. Donc, raisonnablement, et c'est vrai, lui le dit, il s'est assis sur les marches, et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il avait tout prévu, sauf l'arme du crime. Et ça montre quand même aussi une distance dans l'inconscient, qu'au fond, il ne voulait pas cette mort. En tout cas, il ne l'avait pas complètement intellectualisé. Voilà. Puis après, il faut passer à l'acte, hein, malheureusement. Ça doit être compliqué. Ça a été sûrement très compliqué pour lui. Il va prendre ce qui lui tombe sur la main. C'est une bouteille de vin qui n'a pas cassé. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs coups. Mais encore une fois, une violence minimale qui a été relevée d'emblée par le service technique des services judiciaires et de l'information de la gendarmerie.
Voilà. Le fait qu'il prenne le collier d'alarme est une chose assez étonnante, parce que il dit en garde à vue, je pensais qu'elle était morte, mais si elle est morte, quel est son collier ou qu'elle ne l'est pas, ça ne change rien. C'est donc qu'il a en tête l'hypothèse qu'elle est vivante.
C'est ce que l'accusation a soutenu. Il s'est défendu et nous avons expliqué que si la carte bleue, le fêtier, eh bien, était toujours dans la maison, il y avait quand même des objets qui avaient été dérobés, et lui était parti plus sur les bijoux. Et ce collier, il y a des perles, etc., donc ça participait, si vous voulez, on note les bijoux de la victime. Voilà.
D'accord,
donc,
le bip d'alarme était accroché à un vrai collier, quoi.
Alors, voilà, en fait, il est maquillé, entre guillemets, comme un bijou, pour pas que ça fasse, trop vilain au cou des personnes âgées, en tout cas pour les femmes. Et c'est vrai qu'il y a des perles tout autour du collier en lui-même. Voilà les explications. Et l'ensemble, d'ailleurs, il y a eu une disparition de bijoux qui ont été, vous l'avez dit, jetés sur une aire d'autoroute avec les vêtements qui étaient tachés de sang également.
Je vous remercie beaucoup, Maître Boutier, d'avoir débriefé cette histoire, je dois le dire, fort intéressante pour une tentative d'assassinat. Je crois bien que c'est la première fois depuis que cette émission existe que je vous raconte une tentative d'assassinat. D'habitude, il n'y a pas d'onde la traconte sans cadavre. Mais là, ça reste une histoire absolument passionnante. Merci infiniment, Maître Boutier du barreau de Nancy.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.